Jacques Boulanger, Les amours de Lancelot du Lac. Chapitre 1. Au royaume de l'ogre. Le comte dit qu'il y avait anciennement, parmi les forêts du royaume de l'ogre, une foule de grottes où les chevaliers errants trouvaient toujours le vivre et le couvert. Car, lorsque l'un d'eux avait besoin de boire et de manger, il n'avait qu'à se rendre à la plus prochaine, et aussitôt, une demoiselle de féerie en sortait, on ne peut plus belle, qui portait une coupe de fin or à la main avec des pâtés très bien lardés et du pain. Et elle était suivie d'une autre pucelle qui tenait une blanche serviette merveilleusement ouvrée et une écuelle d'or et d'argent, où se trouvait justement le mets que le chevalier désirait. Et encore, si le plat ne lui plaisait point, on lui en apportait d'autres à sa volonté. Mais il advint qu'un chevalier mauvais et plein de vilenie força l'une de ses pucelles au bord de sa grotte, et ensuite lui prit la vaisselle d'or où elle l'avait servie. D'autres agirent comme lui, de façon qu'elles ne voulurent plus se montrer, pour prier qu'on leur en fît. Lorsque le roi Artus eut fondé la table ronde par le conseil de Merlin, les chevaliers de sa maison convinrent qu'ils protégeraient toutes les demoiselles. Si une pucelle était conduite par un chevalier, et que celui-ci fut outré et vaincu, alors elle appartenait au vainqueur. Mais celle qui était seule n'avait rien à redouter, sinon des félons, dont il n'y avait guère en ce temps. Et elle pouvait aller aussi sûrement par le royaume que si elle eût été gardée. Néanmoins, on n'eut plus jamais aucune nouvelle des pucelles des grottes. Ce fut le commencement des temps aventureux. Alors la Bretagne bleue fut pleine de merveilles et les chevaliers se mirent à errer. Partout, il y avait des pas difficiles et des coutumes singulières qu'on ne pouvait franchir ou redresser qu'à grande prouesse. Grâce à quoi, les chevaliers, et surtout ceux de la table ronde, faisaient tant d'armes que leur renom en est demeuré jusqu'à présent. Ils chevauchaient par monts et par veaux sur leurs grands destriers, abattant les mauvais usages, défiant les félons, ramenant les méchants à raison, détruisant les larrons qui volaient sur les routes. Et des demoiselles qu'on ne saurait demander plus avenantes cheminaient sur leurs palefrois. Et pendant ce temps, la cour du roi Artus resplendissait sur le pays de l'ogre, ornée de la reine Guenièvre et de ses dames, brillantes d'or, d'argent, de riches draps de soie, de fêtes, de gerfaux, d'éperviers, de faucons, d'émerillons. Là vivaient les compagnons de la table ronde, et jamais on ne vit si bons chevaliers, si preux, si fiers, si vigoureux et hardis. Mais on estimait alors la prouesse à beaucoup plus haut prix qu'aujourd'hui. Cinq fois l'an, à Pâques, à l'Ascension, à la Pentecôte, à la Toussaint et à la Noël, le roi Artus tenait cour renforcée et portait couronne. En ce temps-là, nul ne passait pour vraiment preux qui n'eût demeuré quelque temps en sa maison. Aussi, les barons venaient-ils en foule à ses cours, et celle de la Pentecôte était la plus enjouée et la plus gaie, parce que c'est ce jour-là que notre sire, monté au ciel, envoya le Saint-Esprit parmi ses fidèles, qui étaient aussi déconfortés que des brebis qui ont perdu leur pasteur. Mais celle de Pâques était la plus haute et la plus honorée, en mémoire du Sauveur qui ressuscita, et nous racheta des éternelles douleurs. D'ailleurs, à maintes autres époques, comme la Chandeleur et la mi-août, ou bien le jour de la fête de la ville dans laquelle il se trouvait, et encore quand il voulait faire honneur à quelques gens, le roi tenait sa cour. Mais cela ne s'appelait point « cour renforcée ». Et à toutes ses cours, il avait coutume de ne se mettre à son haut manger que lorsqu'une aventure s'était présentée à ses chevaliers. Chapitre 2. Le blanc cortège. Or, le vendredi avant la Saint-Jean, le roi chassa tout le jour dans la forêt de Camaalot. Vers le soir, comme il regagnait la ville avec ses gens, il vit venir à lui une belle compagnie. En tête, deux garçons à pied menaient deux sommiers blancs, dont un portait un léger pavillon de campement, le plus riche qu'on eût jamais fait, et l'autre deux beaux coffres pleins de robes de chevalier. Puis avançaient, deux par deux, quatre écuyers montés sur des coussins et tenant qui un écu à boucle d'argent, qui un aume argenté, qui une lance, qui une grande épée, claire, tranchante et légère à merveille. Et après eux, d'autres écuyers et sergents, puis trois pucelles, enfin une dame, accompagnée d'un damoiselle, beau comme le jour, et de deux gentils valets avec lesquels elle causait. Et les robes, les armes, les écus, les chevaux, tout dans ce cortège était couleur de neige. Le roi s'arrêta, émerveillé. Cependant, la dame, l'ayant aperçu, pressait son pas le froid, et, dépassant son escorte, s'avança vers lui en compagnie du beau damoiselle. Et sachez encore qu'elle était vêtue d'une cotte et d'un manteau de samite blanc, fourré d'hermine, et qu'elle chevauchait un petit palefroid en blanc, si bien taillé qu'on n'en vit jamais de plus beau, dont la housse de soie traînait jusqu'à terre. Son frein et son poitrail étaient d'argent fin, sa selle et ses étriers d'ivoire subtilement gravés d'images où l'on voyait des dames et des chevaliers. Dès que la dame arriva devant le roi, elle écarta son voile, et après lui avoir rendu le salut qu'il se hâta de lui faire le premier, en gentilhomme courtois et bien appris qu'il était, elle lui dit « Sire, Dieu vous bénisse comme le meilleur des rois de ce monde. Je viens de bien loin pour vous demander un don que vous ne me refuserez point, car il ne peut vous causer nul mal et ne vous coûtera rien. » « Demoiselle, répondit le roi, dût-il m'en coûter beaucoup, pourvu qu'il ne me soit à honte et qu'il ne cause dommage à mes amis, je vous l'octroierai, quel qu'il soit. » « Sire, grand merci, je vous requiers donc de faire chevalier ce mien écuyer lorsqu'il vous le demandera. » « Bel ami, grâce vous soit rendue de m'avoir amené ce beau jouvenceau. Je lui donnerai ce qui est de moi, ses armes et la collée. Dieu ajoutera le surplus, c'est la prouesse. » La dame remercia le roi et lui apprit qu'on l'appelait la dame du lac. Après quoi, quelque prière qu'il lui fit de demeurer, elle prit congé, le laissant tout étonné, car il n'avait jamais entendu prononcer ce nom. Chapitre 3. Les adieux. Le demoiselle, qui semblait au désespoir de la quitter, voulut la convoquer quelque temps. Quand ils eurent cheminé côte à côte, tristement, la distance d'un trait d'arc, elle rompit le silence et lui dit « Fils de roi, il faut donc nous séparer. Mais auparavant, je veux que vous sachiez, vous que j'ai élevé, que je ne suis pas votre mère et que vous n'êtes pas mon fils. Votre lignée est des meilleurs du monde, et vous apprendrez un jour le nom de vos parents. Songez à vous rendre aussi parfait de cœur que vous l'êtes de corps, car ce serait grand dommage si en vous la prouesse ne valait pas la beauté. Demain soir, vous prierez le roi Artus de vous faire chevalier, et ce jour même, avant la nuit, vous quitterez son hôtel, et vous irez errant par tout pays et cherchant aventure, car c'est ainsi que vous gagnerez louanges et valeurs. Ne vous arrêtez en aucun lieu, ou le moins possible, mais gardez d'y laisser quelque exploit à faire à ceux qui viendront après vous. Et si l'on vous demande qui vous êtes, répondez que vous ignorez votre propre nom. » Elle tira de son doigt un anneau qu'elle passa à celui du damoiselle. Puis elle le recommanda à Dieu, en le baisant bien doucement, et elle lui dit encore « Beau fils de roi, écoutez ceci. Vous mènerez à bien les plus périlleuses aventures, et celui qui achèvera celle que vous aurez laissée, il n'est pas encore de ce monde. Je vous en dirai davantage, mais mon cœur se serre et la parole me faut. Allez, allez à Dieu, le bon, le beau, le noble, le gracieux, le désiré, le mieux aimé. » Elle lui baisa encore la bouche, le visage et les deux yeux tendrement. Puis elle partit, si triste qu'elle n'eût su prononcer un mot de plus. Et le damoiselle pleura en la voyant s'éloigner. Il courut accoler un à un les valets, les pucelles et les garçons. Après quoi il demeura avec les sommiers qui portaient son bagage et deux écuyers que la dame du lac lui avait laissés. Alors il se mit en devoir de rejoindre le roi. Chapitre 4. Le beau damoiselle. Dès le samedi au matin, il vint trouver Monseigneur Yvain le Grand, qui l'avait hébergé en son logis, et il le pria de requérir le roi Artus de l'armée le lendemain. « Comment, beau doux ami, lui dit son hôte, ne vous convient-il pas d'attendre encore un peu et d'apprendre le métier des armes ? Il tombe à terre, l'oiselet qui s'élance avant de savoir voler. » Mais le valet répliqua qu'il lui tardait de ne plus être écuyer. Et Messire Yvain s'en fut dire son désir au roi. « Parlez-vous du damoiselle à la blanche robe ? » répondit celui-ci. « Que dites-vous, Gauvin, de notre valet d'hier soir qui veut déjà être chevalier ?»« Je pense que la chevalerie lui siéra bien, car il est beau et semble de bonne race. »« Quel est ce valet ? » fit la reine Guenièvre. « Allez le quérir, Yvain, dit le roi, et faites qu'il s'habille du mieux qu'il pourra. J'ai idée qu'il a assez de ce qu'il faut pour cela. » Dans la cité, la nouvelle s'était répandue du damoiselle qui était venue en équipage de chevalier, de sorte que les rues se trouvèrent pleines de monde lorsqu'il traversa la ville en croupe sur le cheval de Monseigneur Yvain. Au palais même, les chevaliers, les dames et les demoiselles étaient descendus dans la cour pour le voir, et le roi et la reine se penchaient à la fenêtre. Le blanc damoiselle mit pied à terre, ainsi que Messire Yvain, qui le prit par la main et le mena dans la salle où le roi et la reine firent asseoir entre eux leurs parents, tandis que le jouvenceau se plaçait vis-à-vis sur l'herbe verte dont le sol était jonché. Il était avenant de visage et fait à merveille. Ses bottes étaient si justes qu'on aurait cru qu'il en fût né chaussé, et ses éperons luisaient à s'y mirer. Déjà, la reine Guenièvre le regardait avec douceur et priait Dieu de faire prud'homme celui à qui il avait donné une si belle apparence. Et quant au valet et à la blanche robe, toutes les fois qu'il pouvait jeter à la dérobée les yeux sur elle, il s'émerveillait de sa beauté, à laquelle celle de la dame du lac, ni d'aucune autre, ne lui semblait comparable. En quoi certes il n'avait point tort, car la reine Guenièvre était la dame des dames et la fontaine de vaillance. « Comment a nom ce beau valet ? » demanda-t-elle. « Dame, je ne sais pas, répondit Yvain. Je pense qu'il est du pays de Gaule, car il en a le parler. » Alors la reine prit le beau damoiselle par la main et lui demanda où il était né. Mais lui, au toucher de cette douce main, il tressaille comme un homme qui s'éveille et ne réplique mot. « D'où êtes-vous ? » reprend la reine. Il la regarde et lui dit en soupirant qu'il ne sait d'où. Elle lui demande comme il a nom et il répond qu'il ne sait comme. À cela, elle vit bien qu'il était tout ébahi et hors de lui-même. Et certes, elle n'osait imaginer que ce fût à cause d'elle. Pourtant, elle en avait quelques soupçons. Alors, pour ne pas le troubler davantage, et de crainte aussi que nul n'en pensât mal, elle se leva. « Ce valet ne semble pas de grand sens, » dit-elle. « Et, sage ou folle, il a été assez mal enseigné. » « Qui sait, dame, dit Messire Yvain, s'il ne lui est pas défendu de révéler son nom et son pays ?»« Cela peut bien être, répondit-elle. mais si bas que le damoiselle ne l'entendit pas. Puis elle se retira dans ses chambres. Chapitre 5. Le jour de la Saint-Jean. La nuit venue, Messire Yvain conduisit le beau valet dans une église où il le fit veiller jusqu'à l'aube. Après quoi, il le ramena en son logis pour dormir un peu. Au matin, ceux qui devaient être adoubés le jour de la Saint-Jean reçurent du roi la collée. Puis tout le monde fut entendre la messe, et en revenant, le roi commença de ceindre l'épée au nouveau chevalier. Mais comme il ne lui restait plus à armer que le blanc damoiselle, une pucelle entra dans la salle, la plus belle qui ait jamais été. Ses tresses semblaient de fin or, ses yeux bleus brillaient comme des gemmes, et elle était si bien proportionnée qu'on ne voyait rien en elle à reprendre. Que vous dirais-je de plus? Elle avançait en soulevant légèrement sa robe par devant. Arrivée devant le roi, elle la laissa aller sur l'herbe fraîche et nouvelle dont le palais était jonché. Puis elle salua. Les chevaliers et les dames qui étaient dans la salle s'étaient approchés pour mieux voir une telle beauté, et l'on aurait pu leur couper l'aumônière sans qu'ils s'en aperçussent, tant ils baillaient à la considérer. Bref, tous la louaient, petits et grands. Mais elle dit sans s'ébahir, en riant un peu de ce qu'il la regardait ainsi. « Roi Artus, Dieu te sauve. Je te salue, toi, ta compagnie et tous ceux que tu aimes, de par la dame de Nohant et de par moi-même. » « Belle douce amie, répondit le roi qui était bien disert et savait se jouer en paroles. « Vous avez grande part en ce salut, puisque tout ce que j'aime y sont compris. » « Sire, je m'aime donc mieux d'y être avec vous. La dame de Nohant vous demande secours, comme à son seigneur Lige, car le roi de Northumberland a envahi et gâté sa terre. Tous deux ont convenu que madame pourra faire défendre son droit par un chevalier contre un, ou par deux contre deux, ou par trois contre trois, ou par autant qu'elle en pourra avoir. » Et elle vous requiert de lui envoyer tel champion qu'il vous plaira. « Belle amie, répondit le roi, je la secourrai volontiers, car elle tient de moi sa terre. Mais ne me fût-elle de rien, je ne lui aiderai pas moins, car elle est très vaillante d'âme, débonnaire et de haute lignée, et pour l'amour de vous. » Le damoiselle entendit ces mots. Tandis qu'on menait la pucelle au corps jante dans les chambres de la reine, il vint s'agenouiller devant le roi et lui demanda d'être envoyé au secours de la dame de Nohant. « Sire, ajouta-t-il en le voyant hésiter, vous ne devez pas me refuser le premier don que je requière de vous après mon adoubement. Je serai peu prisé, et moi-même je m'estimerai moins, si vous ne vouliez me donner à accomplir ce que peut faire un chevalier. » Là-dessus, messire Gauvin et messire Yvain intervinrent pour représenter au roi qu'il ne pouvait les conduire honorablement. Si bien qu'à la fin, celui-ci octroya le don, quoiqu'il craignît qu'un tel jouvenceau ne fût pas encore d'âge à porter un si lourd fait de chevalerie. « Sire, grand merci, » dit le damoiselle. Et quand il eut pris congé du roi et des barons, il fut à son logis pour se faire armer. Chapitre 6. Adieu, beau doux ami. Or, Messire Yvain, qui l'avait accompagné, le vit soudain pâlir et lui demanda ce qu'il avait. « Ah, sire, je n'ai pas pris congé de madame. » « Vous avez dit que sage. » Tous deux revinrent au palais et montèrent aux chambres de la reine. Là, le damoiselle s'agenouilla sans mot dire, les yeux baissés. « Dame, dit Messire Yvain, voici le chevalier d'hier soir, que le roi a fait chevalier ce matin. Il vient prendre congé de vous. « Quoi ? S'en va-t-il déjà ? » ?»« Oui, dame, il va de par monseigneur porter secours à la dame de Nohant. Il l'a demandé en don. » « Mais comment Messire le roi le lui a-t-il octroyé ? Il est si jeune. Levez-vous, beau doux sire, je ne sais qui vous êtes, peut-être meilleur gentilhomme que l'on ne suppose, et je vous souffre à genoux devant moi. Je ne suis guère courtoise. »
Ah, dame, dit le damoisel en soupirant, pardonnez-moi la folie que j'ai faite.
Et quelle folie! J'ai pensé sortir de séance sans avoir congé de vous.
Beau doux ami, vous êtes assez jeune homme pour qu'on vous pardonne un si grave méfait.
Dame, merci.
Et après avoir hésité un instant, il dit encore,
dame, si vous vouliez, je me tiendrai toujours pour votre chevalier.
Je le veux bien. Adieu, beau doux ami.
Elle le fit lever en lui donnant la main. Certes, il fut bien aise quand il sentit cette main toucher la sienne, toute nue. Il salua les dames et les demoiselles qui avaient ouï parler de sa bonne grâce et de son excellente beauté et qui avaient tout l'œil sur lui, durant qu'il s'entretenait avec la reine. C'est merveillant que nature l'eût si bien pourvu de ce qu'elle désirait le plus. Puis il revint à son logis pour se faire armer. Et là, messire Yvain s'aperçut qu'il n'avait pas d'épée.
« Par mon chef, vous n'êtes point chevalier, puisque le roi ne vous a pas ceint l'épée. »«
Sire, répondit le damoisel, je n'en voudrais pas d'autre que la mienne, que mes écuyers ont emportée. Je les rattraperai aisément, et je reviendrai aussi vite que mon cheval pourra courir. »
Là-dessus, il sauta sur son cheval et partit à toute bride. Mais il ne revint pas, car il espérait bien qu'il serait chevalier d'une autre main que celle du roi. Et messire Yvain, après l'avoir vainement attendu, s'en fut conter au palais comment le valet l'avait trompé. Messire Gauvin dit que c'était peut-être un très haut homme et qu'il s'était dépité parce que le roi ne lui avait pas ceint l'épée avant les autres, ce que la reine et beaucoup de chevaliers crurent possible. Mais le comte retourne maintenant au blanc damoiselle qui chemine avec ses gens.
Chapitre 7. La dame de Nohant et le chevalier à la blanche robe. Ses écuyers portaient sa lance, son écu et son aume, et l'un menait en laisse son destrier, tandis que l'autre chassait devant lui les deux sommiers. Le damoiselle chevauchait à leur suite, tout pensif, et ainsi allèrent-ils jusqu'à ce qu'ils parvinssent à la cité de Nohant. Alentour, le pays était ravagé et les maisons incendiées. Mais le roi de Northumberland et ses hommes étaient alors occupés à piller à quelque distance, si bien que le portier les laissa passer, quand il vit qu'ils n'étaient que trois. Les vilains des environs étaient venus se réfugier dans la ville, et elle était si pleine de gens que le blanc damoiselle erra longtemps avant de trouver à se loger. Enfin, dans une petite rue, il aperçut un boucher qui lui sembla prud'homme, assis sur les marches de sa maison. L'un des écuyers vint requérir ce vilain de les héberger. Il répondit qu'il n'avait point de place. Pourtant, quand sa femme, qui était bonne à Dieu et au siècle, l'en eut prié, il consentit à recevoir les étrangers dans une grange qu'il avait. Là, les écuyers désarmèrent leur seigneur, puis ils firent nettoyer tout et joncher le sol de paille fraîche, dressèrent un riche lit, firent des sièges, allumèrent un beau feu de bûches sèches et de charbon, mirent les chevaux à l'écurie, les pansèrent, leur donnèrent l'avoine. Enfin, ils tirèrent des coffres de belles robes de chevalier et de valets, blanches comme fleurs en avril, dont le damoiselle et eux-mêmes se vêtirent. Et après avoir pris soin d'enfermer les chevaux à l'étable et les mâles dans une chambre dont ils ôtèrent la clé, ils s'en furent doucement tous les trois vers le château, non sans regarder curieusement par la ville. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle, la dame de Nohant causait dans l'embrasure d'une fenêtre avec son sénéchal. Et elle se demandait comment elle pourrait défendre sa terre, car beaucoup de ses chevaliers avaient été durement blessés dans les dernières rencontres. Le blanc damoiselle vint à elle, et après l'avoir saluée, il lui dit que le roi Artus l'envoyait pour soutenir son droit.
« Beau sire,
Dieu donne bonne aventure au roi Artus, et soyez le bienvenu. Mais dites-moi votre nom, si cela vous agrée. »
Dame, je suis un nouveau chevalier qui n'a point encore combattu. »
À ces mots, la dame baissa tristement la tête. Néanmoins, elle pria le blanc damoiselle d'aller se reposer auprès de ses chevaliers. Mais elle se retira dans ses chambres, toute dolente et déconfortée. Or, lorsqu'il fut l'heure de souper et que l'eau fut cornée et les tables mises, les chevaliers de la dame de Nohant vinrent s'asseoir, chacun à sa place ordinaire, et se mirent à manger, sans maudire, au blanc damoiselle, ni s'occuper de lui le moins du monde. Il était resté dans l'embrasure d'une fenêtre, s'entretenant avec ses écuyers, et disant que jamais il n'avait rencontré de gens si peu courtois. « Allez à notre logis, » commanda-t-il aux deux valets. « Préparez à manger en quantité, et faites crier par la ville que tous les pauvres et les ménestrels et les faiseurs de tours sont invités à souper. »
Sire, volontiers, mais venez avec nous. Nous ne voulons vous laisser seul parmi cette canaille. »
Ils sortirent de la salle, tous trois, sans prendre congé de personne. Et pendant que ces gens achetaient ce qui convenait, le damoiselle s'étendit sur son lit. Comme son hôtesse était venue lui tenir compagnie dans ses plus beaux habits, il lui fit donner pour la remercier un surcot et un manteau d'écarlate, fourré de verre et tout neuf, dont elle fut si ravie qu'elle s'en vêtit aussitôt et appela son mari pour qu'il la vît ainsi faite. Et, quand la nuit fut venue, on alluma tant de luminaires qu'on eût cru que la grange flambait. Puis le damoiselle fit asseoir les jongleurs, les danseuses, les bouffons d'un côté de la table et la menugente de l'autre. Et, vers la fin du repas, les ménestrels commencèrent de chanter, de jouer de leurs violes et les acrobates de faire des tours, en sorte que le bruit et la gaieté se répandirent par la ville. Tous les chevaliers du château vinrent regarder à la porte, mais le blanc damoiselle feignit de ne pas seulement les apercevoir. La dame de Nohant eut nouvelle de cette fête, et quand elle sut que le champion envoyé par le roi Artus soupait si joyeusement en son logis, elle s'informa et apprit qu'on ne lui avait offert chez elle ni à boire ni à manger, et que nul ne l'avait seulement regardé. Alors elle se repentit de ne lui avoir pas fait plus belle chère. « En nom Dieu !» lui dit son sénéchal. « Ce n'est pas en pleurant qu'on retient les chevaliers étrangers, mais par de belles paroles, des joyaux, des cadeaux. Fût-il le pire homme du monde, vous deviez l'accueillir à grande joie et le prier de manger à votre table, puisqu'il était envoyé par Monseigneur le roi. « Je vois bien que j'ai fait une folie, mais je croyais qu'il avait mangé avec mes chevaliers. Vous croyez ? Peut-être est-il de meilleur lignage que vous. Vous n'eussiez rien risqué à le faire asseoir à votre côté. » Alors la dame se mit à pleurer et à gémir, comme font les femmes. Mais son sénéchal lui dit encore, « Maintenant, rien ne sert de pleurer. Allons, et nous lui parlerons. » Sitôt qu'ils entrèrent au logis du chevalier, les jeux s'arrêtèrent, et la menugente se leva devant eux. Le damoiselle fit semblant de ne rien voir ni entendre, mais il regarda ses écuyers en souriant. Alors son hôte, le boucher, à qui il venait de donner une très belle coupe, le tira par sa robe, de manière qu'il se retourna, et, feignant de reconnaître seulement la dame de Nohant, lui souhaita la bienvenue. Puis il la prit par la main et la fit asseoir à côté de lui, ainsi que le sénéchal. Son hôte, qui était serf, voulait se retirer, mais il l'en empêcha, disant que nul ne lui avait fait aussi bel accueil depuis son arrivée à Nohant, et que s'il était encore dans le pays de l'ogre, il eût demandé au roi Artus de la franchir. « Sire chevalier, dit la dame de Nohant, je la franchis pour l'amour de vous, et je vous prie, en nom Dieu, de ne pas me tenir rancune et de me pardonner la mauvaise chair que je vous ai faite. Dame, je suis venue pour l'amour de Monseigneur le roi et non pour aucune autre raison. je ferai ce que je pourrai en son honneur, et je n'ai point de rancune, n'ayant rien à demander à personne, car nul ne me doit rien.
« Sire, dit le sénéchal, madame voudrait que vous vinssiez vous héberger en son hôtel, et elle vous en prie et requiert.
« Sire, merci à vous et à elle, mais je suis bien ici, » répondit le blanc damoiselle.
Ainsi causaient-ils tous les trois, en écoutant les ménestrels et regardant les danseuses. Puis la dame le recommanda à Dieu et revint avec le sénéchal à son palais, où le blanc damoiselle consentit à s'héberger le lendemain, car il avait le cœur franc et ne gardait point aisément rancune aux dames et à ceux qui amendaient leurs offenses sans félonie.
Chapitre 8. Délivrance de Nohant.
Or, la dame de Nohant, qui, d'abord qu'elle l'avait vu, l'avait peu estimé, s'était prise pour lui d'amour lorsqu'il l'avait ainsi traité. Et elle était très belle. Pourtant, il n'en fut point touché, car il ne mettait pas toutes les beautés dans son cœur. Le lendemain, au matin, elle l'envoya chercher à grand honneur. Mais, comme il arrivait au palais, voici venir que le sénéchal.
« Dame, messire le roi m'a chargé de soutenir votre droit. Il l'eût fait dès le premier jour, si un nouveau chevalier ne l'eût prié de lui en accorder le don.
« Sire que, dit le damoiselle, c'est à moi de combattre, puisque je suis arrivé le premier.
« Ce ne peut être, dit que, puisque je suis venu.
Nous jouterons donc, le vainqueur fera la bataille. »
La dame était embarrassée. Elle désirait de confier son droit au blanc damoiselle, mais elle savait que le sénéchal était fort aimé du roi, et elle avait grand besoin de son seigneur lige.
« En nom Dieu, s'écria-t-elle, puisque je puis avoir deux champions, vous combattrez tous les deux. »
Après manger, le blanc damoiselle se leva et vint au mur de la salle où se trouvait appuyée une quantité de lances. Il en choisit une, la plus grosse et la plus forte qu'il put trouver, en éprouva le fer et le bois, et rogna la hampe de deux grands pieds en présence de tous ceux qui étaient là. Ensuite, il alla examiner ses armes avec ses écuyers, regardant bien si rien n'y manquait, ni courroie, ni poignée à son écu, ni maille à son harnois, ni lacet à son aume. Et tous l'en prisèrent davantage. Le lendemain, dès que l'aube parut et que le guetteur corna sur le mur, il se leva et la dame le trouva à genoux devant le crucifix. Cela lui plut fort. Pourtant, quand ces deux champions se furent mis en selle, à l'heure dite, dans la lande choisie pour la bataille, et qu'elle vit que le damoiselle n'avait pris d'autres armes que l'écu et la lance, elle en fut bien alarmée. Mais il lui déclara qu'il ne pourrait ceindre l'épée qu'après en avoir reçu le commandement de quelqu'un. « Au moins souffrez que j'en fasse pendre une à votre arçon, dit-elle. Vous avez affaire à un dangereux homme. » Ainsi fut fait. Puis les quatre champions prirent du champ, et, quand le cor sonna, ils chargèrent deux contre deux, aussi vite que leurs chevaux purent aller. Que et celui qui s'adressait à lui s'entrechoquèrent si rudement que la tête et le cœur leur tournèrent. Tous deux lâchèrent leurs rênes et les poignets de leurs écus, perdirent leurs étriers et roulèrent à terre, où ils demeurèrent, étourdis, le temps de parcourir un arpent au galop. Cependant, le damoiselle frappait l'écu de l'autre, et d'une telle force qu'il le lui serra au bras, et le bras au corps, et qu'il le fit voler par-dessus la croupe de son destrier, ses rênes rompues à la main. Et sitôt qu'il eut passé, il revint au sénéchal qui se relevait. « Prenez mon homme, sire que, et me laissez le vôtre. » Mais le sénéchal ne daigna répondre. Alors le damoiselle descendit de son estrier, car jamais il n'eût consenti à charger à cheval un homme à pied. Jetant son écu sur sa tête, il envahit comme une tempête le chevalier qu'il avait démonté, et il le peina et le travailla si bien qu'en peu de temps il le força de se rendre à Merci. Ainsi l'alouette ne peut durer devant les meurillons. « Venez ça, sire que !» cria-t-il à nouveau. « Voyez où en est celui-ci. Laissez-moi le vôtre. Je ne me soucie pas de demeurer dans ce champ tout le jour. » « Beau sire, ne vous occupez point de ma bataille !» répondit cette fois que courroucé. Et ce disant, il haussa son épée et asséna à son adversaire un coup que la colère poussa de telle sorte que l'autre s'écroula, faisant du jour la nuit. Alors le roi de Northumberland, qui voyait que ses hommes n'avaient plus de défense, s'empressa de demander la paix, et la dame vint séparer les combattants. Puis que le sénéchal repartit pour la cour, où il conta tout ce qui s'était passé à Nohant, et lorsque la reine sut que le damoiselle à la blanche robe avait voulu combattre sans épée, elle en choisit une, très bonne, claire et gravée de lettres, à pommeau d'or, qu'elle lui envoya par un valet. Et sachez qu'il la reçut avec tant de joie qu'il en pensa perdre le sens. Il la baisa plus de 100 fois, aussi pieusement qu'une relique, et la ceignit à grande dévotion. Et quand il l'eut, vainement la dame de Nohant fit tout pour le retenir, jusqu'à s'offrir elle-même, avec sa terre. Il partit sur le champ. Chapitre 9. Le guet de la reine, les demoiselles oiseaux. Or, dit le comte, il était midi lorsqu'il parvint à une rivière qui marquait la limite de la terre de Nohant. Comme il faisait grand chaud, il mit pied à terre pour boire. Après quoi, il s'assit au bord de l'eau, à l'ombre d'un arbre, et se prit à rêver. Tout à coup, un chevalier couvert d'armes noires parut sur l'autre rive, qui poussa son cheval dans le gué, et il fit jaillir l'eau jusque lui. « Sire, dit le blanc chevalier en se levant, vous m'avez mouillé, et pis encore, vous m'avez fait perdre le fil de ma songerie. Peu me chaud de vous et de votre pensée. » Sans répondre, le blanc chevalier enfourcha son destrier et se mit en devoir de franchir le gué, qui était si bon que l'eau ne mouillait pas le ventre du cheval. « Sire vassal, vous ne passerez pas, » dit l'autre. « Madame la reine m'a commandé de garder ce gué. » Aussitôt, le blanc chevalier de tourner bride et de regagner la rive. Mais le chevalier noir le joignit et saisit son destrier par le frein. « Il faut me laisser votre cheval. Pourquoi »« Pourquoi ?»« Parce que vous êtes entré dans le gué. » Déjà, le blanc chevalier avait déchaussé l'un de ses étriers lorsqu'il hésita. « Est-ce de par la reine, femme du roi Artus, que vous me faites ce commandement ?»« Nenni, mais de par une autre reine dont je ne dois dire le nom. » « En ce cas, ce n'est pas aujourd'hui que vous aurez mon cheval. Lâchez mon frein !» Ce disant, il le frappa de son poing, qu'il avait dur et carré, tant que l'autre recula. Alors, tous deux prirent du champ. Puis ils s'élancèrent l'un sur l'autre, droits comme carreaux d'arbalète, et se heurtèrent avec le fracas du tonnerre. Le blanc chevalier poussa d'une telle vigueur sa lance qu'il renversa ensemble le cheval et l'homme, lequel demeura gisant, tout étourdi. Mais, comme il lui délassait son homme pour lui couper le cou ou lui faire crier merci, une voix se fit entendre, sans qu'on aperçût d'où elle sortait, tellement douloureuse que le ciel en parut trembler. « Hâte-toi, Urbain, disait-elle, hâte-toi, ou tu as perdu mon amour. » Quand il ouït ces mots, le chevalier du guet fit effort pour se remettre debout, et, comme le blanc champion l'en empêchait, une nuée de grands oiseaux, plus noirs que suie, fondit du ciel sur lui et s'efforça de lui crever les yeux sous son aume. Grâce à quoi le vaincu se dégagea et de nouveau courut su à son vainqueur. Celui-ci se défendait de son mieux. Haussant l'épée, il frappa l'un des oiseaux qui s'abattit sous la forme d'une demoiselle, tout ensanglanté. Ce que voyant, les autres poussèrent de grands cris de douleur comme font les femmes. Ils prirent la blessée dans leur serre et disparurent en un instant. Et bientôt le chevalier du guet fut de nouveau outré et réduit à merci. « Sire, dit-il, sachez que j'ai nom Urbain et que je suis chevalier errant. J'aime une reine, la dame la plus belle qui ait jamais été. Un soir que je la requérais d'amour, elle me dit qu'elle ferait ma volonté si je voulais lui promettre un don, et quand je l'eus octroyé, elle me commanda de garder ce guet. Si je l'eusse défendu 7 ans sans être vaincu, j'eusse été le meilleur chevalier du monde. Hélas, il s'en faut de 7 jours. Celle que tu as navrée sous la semblance d'un oiseau était la sœur de mamie. Ses compagnes l'ont emportée dans l'île d'Avalon. Maintenant, je te prie, en nom Dieu, de me donner congé. » Le champion aux blanches armes le lui accorda, après lui avoir fait jurer qu'il irait se rendre prisonnier à la reine Guenièvre. Mais Urbain ne s'était pas éloigné d'un arpent, qu'on le vit soudain s'arrêter et regarder en l'air en donnant les signes de la plus grande joie du monde, dont le blanc chevalier s'émerveilla. Pourtant il se remit en selle, traversa le gué et continua son chemin, suivi de ses écuyers. Chapitre 10. Les 3 écus de Sarède, la Pucelle. Longtemps ils chevauchèrent sans encombre, puis le ciel devint obscur, le vent se leva, des tourbillons de poussière s'élancèrent autour d'eux, les éclairs percèrent la nue, si pressés qu'on se fût cru au jour du jugement. Enfin la pluie se mit à tomber, tandis qu'autour d'eux la foudre fracassait les arbres. Bref, une tempête fit rage, si terrible qu'il n'est aucun homme, pour hardi qu'il soit, qui ne s'en fût effrayé. Maintes fois, le vent les heurta rudement sur l'épaule gauche et les fit virer sur place, malgré qu'ils en eussent. Maintes fois, ils furent balayés du chemin. Mais le chevalier aux blanches armes tourna son écu contre l'orage. Et ils allèrent ainsi jusqu'au soir, que le ciel s'apaisa. Alors ils gravirent un tertre, d'où ils aperçurent un grand feu qui brûlait au loin, à 1 lieue et demie pour le moins. Et lorsqu'ils l'eurent atteint, après avoir traversé 1000 fourrés de ronces et d'épines, ils se trouvèrent à l'entrée d'un gros village. C'était là que flambait le bûcher, qui avait bien 10 pas de tour. Ils eurent bel accueil dans la maison d'un bourgeois où ils s'adressèrent, et qui était merveilleusement muni de ce qui convient aux chevaliers errants. Tandis que les valets mettaient les coffres dans la garde-robe et les chevaux à l'étable, l'hôte appelait sa fille, et la Pucelle emmena le blanc chevalier dans une chambre, où, avec l'aide de sa mère, elle le désarma, lui lava le visage et le cou, et l'essuya avec une blanche serviette bien ouvrée. Puis il revêtit une robe très riche qu'un de ses écuyers lui apporta. Après quoi, la Pucelle le prit par la main et le mena dans la salle. Une demoiselle magnifiquement parée y était assise, et à la lueur des cierges, dont la salle était illuminée, le chevalier reconnut sa reine, l'une des Pucelles de la Dame du Lac. « Ah, belle douce demoiselle, soyez la bienvenue entre toutes. Comment va ma bonne dame ?»« Très bien, » répondit-elle. Et le tirant à part, « C'est elle qui m'envoie vous dire que demain vous connaîtrez votre nom et celui de votre père et de votre mère. Au-dessus de ce bourg s'élève un fier et orgueilleux château qu'on appelle la Douloureuse Garde, parce que nul chevalier errant ne s'y est jamais présenté qui n'y ait été tué ou pris. Et ce feu brûle chaque nuit pour en attirer, car les gens d'ici espèrent qu'enfin viendra celui qui mettra l'aventure à fin et les délivrera. La forteresse a 2 murailles, chacune percée d'une porte que défendent 10 chevaliers, et pour réussir, il vous faudra les vaincre tous, et non toujours un à un, car dès que l'un d'eux se sent là, il en peut appeler quelque autre à la rescousse. Mais ces écus sont vôtres. » Ce disant, elle lui montra 3 écus appuyés contre la muraille, tous peints d'argent, l'un à une bande vermeille, l'autre à 2 bandes, le dernier à 3. « Le premier, continua-t-elle, ajoute la force d'un homme à celle de qui le porte. Le second,
la force de deux hommes, le troisième, à triple bande, celle de trois hommes. Certes, vous en aurez besoin demain. Et souvenez-vous, en tout cas, que vous ne devez apprendre votre nom à personne avant que vos exploits vous aient fait connaître en plusieurs contrées. » Ainsi parla la demoiselle. Après quoi, tout le monde s'assit au manger et fut bien servi de ce qui convient au corps. Et, tandis que le blanc chevalier dormait dans un très haut et riche lit, chacun, dans le bourg, pria pour son succès. Tant on souhaitait de voir tomber les enchantements et les mauvaises coutumes du château. Chapitre 11. Prise de la douloureuse garde. Au matin, quand Dieu fit lever le soleil, il se fit armer, et, monté sur un destrier fort et courant, il gravit la butte et parvint devant la porte de la forteresse. Le cor sonna, un chevalier parut sur la muraille. « Que demandez-vous ? »
« L'ouverture du château. »«
Ah, sire, je voudrais que vous fussiez assez preux pour mener cette aventure à bien, car cette douleur n'a que trop duré. Mais il nous convient de garder notre loyauté et tenir notre serment. » Là-dessus, le pont-levis s'abaissa, et 10 chevaliers sortirent un à un par le guichet, chacun suivi de son destrier qu'un écuyer tirait par la bride. Puis, montés à cheval, ils se vinrent en bel arroi, lance sur feutre, rangés au bas du tertre. Quelle rude bataille pour le blanc chevalier! Mais, comme dit le proverbe, celui que Dieu veut aider, nul ne lui peut nuire. Les uns, ils les heurtent si rudement de sa lance qu'ils n'ont besoin de médecin. Les autres, ils faussent leurs aumes, font leurs écus, rompent leur aubert sur les bras et les épaules. Mais eux, ils l'atteignent et le blessent aussi. Car dès que l'un a le dessous, quelque autre se jette à la rescousse. Et certes, il lui fut utile de porter un aubergeon bien maillé dessous son blanc aubert. Pourtant, grâce aux 2 premiers écus à bande vermeille qui lui refont 2 fois des forces nouvelles, il se bat tant et si rudement qu'enfin ses adversaires ne sont plus que 3. Ce que voyant, l'un s'écrie que, puisque mains autres, et plus preux que lui, ont perdu la vie, il ne se fera pas tuer comme eux. Il tend son épée et s'avoue prisonnier. De même les 2 derniers. Et la porte du château s'ouvre à grand fracas. Il était alors près de Nonne. À grande joie, le chevalier aux blanches armes gravit le tertre. Mais quand il eut passé le seuil, il découvrit une seconde muraille et une seconde porte devant laquelle 10 nouveaux chevaliers se tenaient rangés. À ce moment, il sentit que sa raide, aidée de ses écuyers, lui délaçait son aume tout bosselé et fendu et qu'elle lui en ajustait un autre. Puis qu'elle lui passait au cou la courroie de l'écu à 3 bandes. « Ah, demoiselle, vous me ferez honnir !» lui dit-il. « Le second écu était déjà de trop. Voulez-vous que je vainque sans que ma prouesse y soit pour rien ?» Cependant, on le hissait sur un destrier frais. En même temps, un valet lui glissa dans la main une grosse lance, courte et roide, dont le fer tranchait comme rasoir. « Je veux maintenant vous voir jouter, beaux doux amis, » dit sa raide, « car je sais assez comment vous vous aidez de l'épée. Mais regardez au-dessus de la seconde porte. » Il y avait là une statue de cuivre en forme d'un chevalier tout armé et monté qui tenait en main une hache. Et cette figure était enchantée de telle façon qu'elle devait choir sitôt que le futur conquérant du château jetterait un regard sur elle. Le blanc chevalier lève les yeux. Dans le même moment, elle tombe et rompt le col à l'un de ceux qui étaient alignés au-dessous d'elle. Sans s'étonner, il baisse sa lance, pique des 2, fond comme une tempête sur les autres et en tue 2 coup sur coup. Pris de peur à voir cette prouesse qui leur semblait plus d'un diable que d'un homme, les chevaliers se laissent glisser à bas de leur destrier et s'efforcent de gagner le guichet. Mais avant qu'ils y soient parvenus, le blanc champion qui s'est jeté sur eux l'épée nue, en force trois à crier merci. Les cinq derniers s'enfuient. Et la porte s'ouvre devant le vainqueur.
Chapitre 12. La tombe de Lancelot. Il vit alors venir à sa rencontre une foule de dames, de demoiselles et de bourgeois qui menaient la plus grande joie du monde et dont l'un lui annonça que Brandus des Îles, le mauvais seigneur de la douloureuse garde, venait de s'enfuir au galop de son cheval. « Ai-je encore à faire quelque chose pour achever l'aventure ?» demanda le blanc chevalier. Sans répondre, ils le menèrent non loin de là, dans un cimetière. La crête du mur d'enceinte était parsemée d'un grand nombre de haumes, et sous chacun d'eux il y avait une tombe, sur laquelle des lettres disaient « Si J, un tel, et voyez sa tête ». Mais il était aussi des tombes que ne surmontait aucun homme. On pouvait y lire « Si Jira un tel ». Et c'était le nom de quelque bon chevalier encore vivant en la terre du roi Artus ou ailleurs. Enfin, au milieu du cimetière, s'étendait une grande lame de métal, merveilleusement ouvrée d'or, de pierreries et d'émaux. Et dessus étaient gravés ces mots en lettres d'azur. Cette tombe ne sera levée par main d'homme, sinon de celui qui conquérera la douloureuse garde. Brandus des Îles avait souvent tenté, par force ou par engin, de déceler cette lame, mais il n'avait jamais pu y réussir. Le blanc chevalier déchiffra l'inscription sans peine, car il savait tant de lettres qu'il pouvait très bien comprendre une écriture. Puis il appuya ses deux mains sur un des côtés de la tombe et la souleva facilement à un pied plus haut que sa tête. Alors il aperçut d'autres lettres qui disaient « Si Jira, Lancelot du Lac, le fils du roi Ban de Benoïc. » Et aussitôt il laissa retomber la lame, non sans que sa raide toutefois, qui était à son côté, eût lu en même temps que lui. En sortant du cimetière, on le mena dans un palais, petit mais très riche, qui avait été celui de Brandus des Îles. Et là, il fut désarmé et ses blessures soignées par de bons mires. Cependant, les gens du château soupiraient en songeant qu'il ne resterait peut-être pas 40 jours parmi eux, et qu'ainsi ne tomberaient pas les enchantements qui nuit et jour les tourmentaient. Car ils étaient la proie de terreurs mystérieuses, et nul d'entre eux ne vivait toute une heure en paix. Chapitre 13. Fin cœur ne peut mentir. Un valet, frère de l'un des chevaliers de la table ronde, nommé Aiglin Dévot, avait assisté à la prise de la douloureuse garde. Pensant que le roi Artus serait bien aise d'en avoir au plus tôt la nouvelle, il partit entre Nonne et Vêpres sur un bon cheval de chasse et s'en fut battant à Kerléon. 2 jours plus tard, il se présentait au palais. « Roi Artus, Dieu te sauve ! Je t'apporte les plus étranges nouvelles qui soient jamais entrées dans ta maison. »« Dites-les donc, bel ami !»« La douloureuse garde est conquise. J'ai vu un chevalier passer les 2 portes par force d'armes. »« Valet, ne dis point cela, ce n'est pas vrai. »« Sire, pendez-moi si je mens. » Là-dessus entra Aiglin, qui, voyant son frère à genoux devant le roi, lui dit « Beau frère, sois le bienvenu. »« Si c'est votre frère, Aiglin, il faut donc le croire. Fin cœur ne peut mentir. Quelles armes portait ce chevalier ?»« Blanche, sire, comme son cheval. » Il tue plus d'hommes à lui seul qu'on en pourrait enterrer en 2 arpents de terre. Que Dieu ne m'aide si fer ou acier peuvent durer contre son épée. Ce doit être le nouveau chevalier que j'ai adoubé à la Saint-Jean. Je partirai pour la douloureuse garde demain. Dame, dit le roi à la reine, prenez celle de vos demoiselles que vous préférez, car vous viendrez avec moi. Chapitre 14. Lancelot en extase, départ de la douloureuse garde. 4 jours plus tard,
il arrivait au château avec sa compagnie.
« Sire Prudhomme, cria-t-il au guetteur, ne nous laisserez-vous entrer ?»«
Qui êtes-vous ? » ?»«
Je suis le roi Artus. » »«
Et qui est cette dame-là ? » ?»«
C'est la reine. » »«
Sire, pour vous et pour la reine, je ferai selon mon pouvoir, » dit le guetteur.
Et il envoya un valet prévenir le nouveau seigneur du château que le roi Artus était devant la porte. Le blanc chevalier se hâta de monter à cheval et d'aller à la rencontre du roi. Il se fait ouvrir la porte, il sort, voit la reine, et tout soudain tombe en extase. Les yeux fixés sur elle, il fait reculer son cheval jusque sous la voûte, sans même s'en apercevoir. Le guetteur, croyant bien faire, laisse aussitôt tomber la herse. Et le blanc chevalier demeure là, hors de sens, à contempler à travers les barreaux celle qui fut toujours la fleur de toutes les dames.
« Sire ! » s'écrie Queue courroucée, « vous agissez comme un vilain !»
Mais le blanc chevalier ne l'entend même point. Alors s'arrête la pucelle de la dame du lac, le secoue par le pan de son manteau, et tant qu'il revient en son droit sens.
« Sire ! » demande-t-il à Queue, « que dites-vous ? »
« Je dis que vous offensez mon seigneur et ma dame de leur fermer la porte au nez, et moi de ne pas seulement me répondre. »
À ces mots, le blanc chevalier fut tellement dolent que pour un peu il fut devenu fou. Il tire son épée, crie au guetteur en jurant « Ne t'ai-je pas commandé de laisser entrer madame la reine ?»«
Sire, jamais vous ne m'en avez parlé.
Si tu n'étais si vieux, je te couperais la tête. Ouvre !» et ne t'avise plus de clore cette porte. »
Ayant dit, il se sauve au galop vers le château. Cependant, le roi, la reine et leur compagnie passaient les deux enceintes et pénétraient dans les cours, où ils virent un étrange spectacle, car toutes les fenêtres étaient garnies de dames, de demoiselles, de chevaliers et autres gens qui pleuraient à chaudes larmes en silence.
« Maintenant que je suis dedans, dit le roi étonné. Je n'en sais pas plus que lorsque j'étais dehors.
Sire, dit la reine, il n'y a ici que des gens qui souffrent. Espérons que celui qui nous en a tant montré nous en montrera davantage.
À ce moment, le blanc chevalier traversait la cour sur son cheval, tout armé, le haume en tête, la lance au poing et l'écu aux trois bandes sur le dos, résolu de s'éloigner à jamais du château. Et, en le voyant partir, tous ceux qui silencieusement pleuraient aux fenêtres se mirent soudain à crier de toute leur force « Roi, prenez-le ! Roi, prenez-le !»«
Que voulez-vous ? » demanda le roi stupéfait en s'approchant.
« C'est par lui seul que peuvent être défaits les enchantements du château. »
Mais quand le roi se retourna, le chevalier aux blanches armes était déjà sorti de la douloureuse garde et s'éloignait par la sombre forêt, aussi vite que son cheval pouvait galoper. Cependant, sa reine s'était approchée de la reine.
« Dame, lui dit-elle tout bas, ce chevalier a nom Lancelot du Lac, fils du roi Ban de Bénoïque. Souvenez-vous-en. »